BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous, vous jouez à domicile chaque vendredi. Les pros des cryptos à 15h en direct, à la radio, à la télé sur BFM Business et ensuite bien sûr à découvrir sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Nos NFT à nous, nos talents non fongibles maison sont présents. Ils répondent à l'appel de BFM Crypto. J'appelle Claire Balva. Claire nous accompagne chaque vendredi, elle est experte crypto et bien sûr VP pour Débloque. Bonjour Claire.
Bonjour Guillaume.
Thibaut Boutrou nous accompagne également cette semaine. Bonjour Thibaut, directeur des opérations de Meria. Il nous vient de Metz directement ici à Paris. Bonjour Thibaut et bienvenue également. Nos NFT chaque vendredi. Alors dans un instant, bien sûr, on va parcourir toute l'actualité de la semaine en un peu plus d'une vingtaine de minutes grâce à nos pros. Mais d'abord, le potentiel des cours, notamment sur le Bitcoin. Tiens, toujours à plus de 50 000 dollars ce vendredi après-midi, le Bitcoin. Gilles Santacreux depuis boursicoté.com est avec nous. Bonjour Gilles. Ravi de vous retrouver.
Bonjour.
On est à un peu plus de 51 000 dollars même en ce moment sur le Bitcoin. Quel potentiel technique voyez-vous pour la suite ?
Du potentiel, il y en a, puisque ce que l'on peut observer depuis la cassure donc des 47 700 qui représentait une zone de résistance sur les plus hauts du début de l'année, c'est qu'on est arrivé donc sur cette zone des 52 000, on s'est stabilisé sur celle-ci, et en absence de flux donc qui aurait pu justifier la continuité d'un mouvement haussier, on n'a pas de mouvement de consolidation. Grossièrement, on est dans un petit range court terme entre 50 700 et 53 000 dollars pour un Bitcoin. On ne sort pas de ce range, ce qui veut dire que toute la pression haussière qui s'est exercée donc justement pour justifier cette hausse n'est pas compensée par une phase de consolidation. Donc on est toujours sur un marché qui reste résolument haussier. Les objectifs, ils sont à 55 700 puis éventuellement à 58 100 dollars pour un Bitcoin. Il y a toujours du potentiel. Ce qu'on a pu voir, c'est que même avec une configuration haussière et avec des limites de surachat, eh bien, on n'a pas ce retournement. Et globalement, tant que l'on est donc dans ce range, donc au-dessus des 50 700, eh bien, globalement, il n'y a pas de signal de consolidation et on reste sur une dynamique haussière et potentiellement très forte.
Là, c'est le Bitcoin. Vous êtes en train de nous parler du Bitcoin qui avait franchi déjà la semaine dernière la barre des 50 000 dollars. L'événement de cette semaine, un peu plus frais encore, c'est sur l'Ether qu'il s'est produit cet événement, qui, lui, l'Ether, a franchi cette semaine la barre des 3 000. Ça n'a pas tenu très longtemps, on est sous les 3 000 là, ce vendredi après-midi. Techniquement, comment est-ce que vous voyez la suite sur l'Ether ?
Techniquement, alors c'est vrai que la zone des 3000, c'est une zone plus psychologique que technique d'ailleurs. Techniquement, on n'a pas grand-chose sur cette zone-là. Ce qui se passe sur l'Ethereum, c'est qu'on a des mouvements qui montent par paliers. On casse des précédents de résistance, on vient marquer un plus haut et ensuite on se stabilise et on revient tester donc cette ancienne résistance comme une zone de support. Et donc, c'est ce que l'on a fait donc sur la cassure des 2132 points. Et là, on a cassé une zone donc de résistance à 2665. On est venu au niveau des 3000 et ensuite on se stabilise. Ce qui veut dire que même si on consolidait sur cette ancienne zone de résistance des 2665 dollars pour un Ether, eh bien, on resterait dans une dynamique haussière potentiellement forte. L'objectif, donc la prochaine zone de résistance que l'on peut viser si la dynamique reste haussière, c'est aux environs des 3400 dollars pour un Ether.
Gilles Santacreux avec nous, boursicoté.com. Merci beaucoup Gilles de nous avoir accompagné cet après-midi. Et l'actualité crypto qui a été riche encore cette semaine. On va parler dans les pros des cryptos aujourd'hui de la BCE. La BCE à nouveau critique vis-à-vis des cryptos. Dans une tribune publiée ce jeudi, elle évoque un risque de dommages collatéraux énorme. On verra comment nos pros réagissent et l'analyse qu'ils font de cette tribune de la BCE. Pourquoi maintenant cette tribune, d'ailleurs, de la part de la Banque Centrale Européenne. On parlera aussi, alors pour le coup, du Bitcoin et d'Ethereum qui sont en train de devenir financièrement inattaquables. Financièrement inattaquables, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Coinmetrics qui explique que les 51% du Bitcoin sont désormais inatteignables, les 34% d'Ethereum... 51%, 34%, à quoi ça correspond ? Pourquoi ces blockchains et ces cryptos deviendraient-elles inattaquables ? On posera aussi la question. Et puis l'USDC, dans l'univers des stablecoins, l'USDC quitte la blockchain Tron, une décision de Circle. Peut-être un signe des limites potentielles de cette blockchain. On abordera aussi cette thématique au milieu de beaucoup d'autres. La semaine a été riche et dense, passionnante. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. Laissez-vous faire. On est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils sont là, Thibaut Boutrou et Claire Balva. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Alors je vous posais la question la semaine dernière à propos du Bitcoin quand il avait franchi la barre des 50 000 $. Je vous demandais, tiens, le Bitcoin a plus de 50 000, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand il a franchi ce seuil des 50 000? Comment est-ce que vous avez vécu le moment? Ben, cette semaine, je vais vous poser la même question, mais sur l'Ether. L'Ether a franchi pour la première fois depuis avril 2022 la barre des 3 000 $. Ben, voilà, c'était en milieu de semaine. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Claire? Comment est-ce que vous avez réagi?
Alors moi je l'ai pas vu tout de suite parce que enfin je vais faire un peu la même réponse que sur les 50 000 $ pour Bitcoin. En réalité moi je regarde très peu les cours parce que c'est pas le cœur de mon métier et parce que je trouve que c'est une source de distraction qui pousse à faire du trading quand on n'est pas trader. Donc je regarde peu les cours et j'aime pas trop les commenter ni à la hausse ni à la baisse.
Comme les moines, vous vous coupez du monde, vous vivez.
Non pas à ce point-là, mais j'essaye de ouais. me concentrer sur les bonnes choses et de pas me laisser parasiter par les cours. Donc sur les terres à 3 000 $, je pense que c'est probablement une anticipation de l'arrivée des potentiels ETF spot sur l'Ether. Honnêtement, pas grand chose à en dire. On va voir si ça se consolide. C'est une bonne nouvelle évidemment pour les portefeuilles de tous ceux qui ont de la crypto, mais je reste assez prudente là-dessus.
Vous vous dites quand même qu'on est en train de sortir de l'hiver crypto là pour de bon.
Ça fait quelques semaines. Ça me semble être un peu tôt, notamment par rapport au halving de Bitcoin. Mais les ETF ont l'air d'avoir vraiment aspiré une grande partie des émissions monétaires de Bitcoin et puis globalement de faire monter l'ensemble des cours crypto.
Il a franchi les 3 000 $ l'Ether cette semaine. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ça, vous?
Je me suis dit que c'était une bonne journée. Nous, on a l'écran dans un grand écran dans le bureau, donc on voit les cours et on voit ces passages qui sont, comme ça a été dit en introduction, qui sont plus des seuils psychologiques que techniques. Moi, j'y accorde très peu d'importance en réalité. Il est retombé un petit peu en dessous après. On est dans des zones où, de toute manière, l'évolution au jour le jour a très très peu d'incidence en réalité. Donc, faut tout de même appeler à la prudence. Mais en tout cas,
c'était quoi l'ambiance chez Meria quand les 3 000 ont été franchis? On est d'accord. Un cours, un point ne fait pas une tendance et on rappelle que les cryptos, il faut y investir que l'argent qu'on est prêt à perdre parce que c'est très spéculatif. Mais enfin, l'ambiance là, quand on a...
Non mais de toute manière, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que chez nous et chez tous les acteurs crypto, globalement, le sourire est beaucoup plus facilement présent en tout cas qu'il n'a pu l'être pendant les précédents mois, années avec la reprise des cours. Donc ça fait toujours plaisir de voir les commenter. Après, il faut aussi être un peu prudent parce que, comme l'a dit Claire juste avant, ça part peut-être un petit peu et peut-être un petit peu vite aussi, donc c'est pas impossible après qu'on ait du coup des périodes de respiration et de correction, donc il faut être quand même prudent par rapport à tout ça.
Oui, les premières chaleurs ou douceurs importantes au mois de février, attention, derrière il y a le rogel et on sait ce que ça fait sur les vignobles, hein, quand on a les dernières vagues de froid du mois d'avril dans les vignobles, ça fait des dégâts. Est-ce qu'on en est là sur les cryptos? Est-ce qu'on crie victoire un peu trop tôt? Déjà à la fin de l'hiver crypto, est-ce qu'on en est sûr? On va continuer de poser cette question et d'essayer d'y apporter des réponses, d'autant que les prochaines semaines seront riches et pourraient aussi avoir un impact sur les cours, on verra. Par exemple pour l'Ether dont on parlait à l'instant, avec une nouvelle mise à jour à venir, pas n'importe laquelle, elle a l'air assez importante cette mise à jour, on l'appelle The Surge. Est-ce que c'est une nouvelle histoire qui pourrait pour l'Ether et l'Ethereum s'écrire avec The Surge, Claire?
C'est la suite logique de ce qui avait déjà eu lieu sur Ethereum, qu'on appelait The Merge, donc il y a effectivement des noms sur ces différentes mises à jour. Un des gros problèmes d'Ethereum, c'est le passage à l'échelle du réseau. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas très bien la crypto, on rappelle que sur une blockchain comme Ethereum, l'ensemble des nœuds, des ordinateurs qui stockent la blockchain, stockent l'ensemble des données. Et donc ça peut créer des engorgements sur le réseau parce que chaque ligne de code doit s'exécuter sur l'ensemble des nœuds qui stocke ces données. Donc c'est un peu inefficient, pour le dire simplement. Et donc pour résoudre ces problématiques d'engorgement et de passage à l'échelle du réseau, on a vu arriver tout un tas de débats et de propositions, notamment par exemple ce qu'on appelle le sharding, donc qui consiste à diviser une base de données, donc par exemple la blockchain en différents morceaux, voilà, à répartir un peu les rôles et les données. On a vu arriver les surcouches, les fameux layer 2 comme Arbitrum, Optimism, qui visent à faire tout un paquet de transactions hors de la blockchain et à ne mettre dans la blockchain qu'une sorte de réconciliation de ces transactions. Donc aujourd'hui, on arrive avec ces surcouches à avoir des frais de transaction beaucoup plus bas que sur le réseau principal Ethereum, mais ils sont pas encore assez bas. Pas suffisamment bas pour pouvoir vraiment passer à l'échelle sur le réseau Ethereum. Et donc, on a un certain nombre de mises à jour qui arrivent. Donc là, celle qui arrive, elle a un nom un peu barbare qu'on appelle le proto-Dank-sharding. Et donc ça, en gros, ça va permettre de réduire les frais de transaction, d'avoir une plus grande scalabilité du réseau, oui, en créant ce qu'on appelle des blobs, qui sont des sortes d'espaces de mémoire temporaires, éphémères, au sein des blockchains. Donc ce sont des endroits où on va pouvoir stocker des transactions, mais qui vont s'effacer automatiquement après quelques semaines. Donc voilà, ce sont des évolutions technologiques qui arrivent sur Ethereum, qui sont très intéressantes à regarder et qui montrent encore une fois qu'Ethereum évolue très vite et se distingue par là de Bitcoin qui se positionne beaucoup plus dans, en blockchain, on va dire, sécurisé et inerte, c'est-à-dire qui évolue assez peu, mais pas dans le sens péjoratif du terme, hein, c'est vu assez positivement par les bitcoins.
Alors justement, le bitcoin, on va en parler, hein, pas de jaloux, on a beaucoup parlé d'Ether et d'Ethereum, maintenant place au bitcoin. Le bitcoin constitue l'avancée monétaire la plus significative depuis l'invention de la monnaie. C'est Christine Lagarde qui le dit. C'est pas Christine Lagarde, pardon. C'est Edward Snowden. C'est Edward Snowden qui le dit. Le Bitcoin est l'invention, l'avancée monétaire la plus significative depuis la création de la monnaie. Voilà ce qu'il a dit et répété d'ailleurs ces derniers jours. Il ajoute Edward Snowden, l'or est juste du Bitcoin qui ne peut pas être envoyé sur Internet. Bon. Christine Lagarde, en revanche, elle n'a pas changé d'avis. Elle. Au contraire, la BCE, d'ailleurs, reste sur son compte. À soi, une tribune publiée par deux membres du service infrastructure et paiement de la BCE a fait jaser cette semaine. C'était jeudi, cette tribune. Ces deux membres de la BCE disent que, pour la société, un nouveau cycle d'expansion et de récession du Bitcoin est une perspective désastreuse. Et les dommages collatéraux seront énormes, y compris les dégâts environnementaux et pour la redistribution ultime des richesses. Voilà ce que disent ces deux membres de la BCE cette semaine. C'était ce jeudi. Claire.
Oui, alors pas vraiment de surprise sur le fait que la BCE n'aime pas Bitcoin. Donc moi, quand j'ai vu cet article au début, je me suis dit, bon, un énième article de la BCE critique sur Bitcoin, aucune surprise, c'est pas très intéressant. Et puis en fait, quand on va lire en détail l'article, ce qui est surprenant, c'est quand même ce côté encore plus extrême qu'avant sur Bitcoin. Et ça se traduit... Alors, bon, il y a des erreurs sur les chiffres, évidemment, comme d'habitude. Il y a des erreurs sur les sources. Il y a très peu de choses sourcées. Mais ce qui est particulièrement étonnant, c'est ce passage qui, moi, m'a pas mal choqué, qui étudie un peu ce qui s'est passé avec des DAO aux États-Unis et qui disent, finalement, quand le régulateur fait pression sur les créateurs, les gens influents dans les DAO, on arrive à avoir, finalement, ce qu'on veut en termes de résultats. Et à faire changer finalement les protocoles sur ce qui s'y passe. On pense aussi à ce qui s'est passé par exemple sur Tornado Cash avec un développeur qui a été mis en prison parce qu'il avait créé des lignes de code et un mixeur pour justement faire des transactions anonymes. Et donc là, tout ce passage suggère après que finalement on pourrait faire pareil sur Bitcoin. Et donc on pourrait aller chercher les individus influents dans la communauté Bitcoin. Donc les individus influents, c'est qui ? C'est les core développeurs, c'est les mineurs. Et éventuellement, ça peut être certaines personnalités connues dont les idées sont influentes dans la communauté Bitcoin. Et on pourrait aller faire pression sur ces personnes-là pour... On ne sait pas trop quoi, hein, d'ailleurs, pour changer le protocole, pour censurer des transactions qui seraient illicites. Et ce passage-là, je le trouve assez choquant, parce que c'est quand même extrême de dire on va aller faire pression, non pas sur des entreprises qu'on va forcer à respecter la réglementation comme on le fait sur les exchanges, mais on va aller voir des particuliers qui s'impliquent dans un protocole open source pour les forcer à changer les choses dans ce protocole. Et ça, pour moi, ça traduit vraiment une peur de la BCE et de ses membres, parce que c'est la première fois qu'on en arrive à cet extrême-là, de se dire finalement, Bitcoin devient tellement dangereux qu'il faut qu'on aille voir les personnes qui s'en occupent pour faire pression sur eux. Et on n'était jamais encore arrivé à ce stade. Je pense que les ETF ont été un signal important parce que ça traduit une reconnaissance de la finance traditionnelle. Mmh. Et ça, je pense que ça fait peur à certaines institutions comme la BCE.
Oui. Alors après, c'est pas un communiqué officiel de la BCE. Ouais. Ce sont deux membres d'un service de la BCE. Deux membres, voilà.
Donc, bien sûr. Toujours
cette nuance, ouais.
Bien sûr, mais on sait quand même comment ça se passe, hein, pour avoir travaillé dans une grande entreprise. Quand vous sortez un article, vous le faites pas tout seul dans votre coin. Hein. Il y a quand même des process de communication pour sortir ce genre de choses.
Bon, donc vous n'adhérez pas à cette tribune.
Pas de surprise non plus,
effectivement. Enfin, on n'est pas non plus des bénis. Oui, hein, tout n'est pas parfait dans l'écosystème des cryptos et on en parlera tout à l'heure. Il y a encore quelques défauts, voire encore la loi de la jungle dans certains pays, des affaires qui continuent de tourner. Il n'empêche, le Bitcoin est en train de devenir financièrement inattaquable. L'Ethereum aussi est en train de devenir financièrement inattaquable. C'est Coinmetrics qui l'a dit cette semaine. Bitcoin est à l'abri d'une attaque des 51% et Ethereum d'une attaque des 34%. De quoi on parle ? C'est quoi les 51 et les 34% ?
Ouais, c'est ça. Alors, donc pour revenir d'abord sur les 51 et les 34%, donc sur Bitcoin, on parle d'une attaque 51. En quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre, en gros... possession ou avoir la main sur plus de la moitié du réseau, sur plus de 51% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin. Et à partir de là, eh ben, on va pouvoir intégrer des choses dans le protocole, puisqu'on va pouvoir doubler en fait des validations, et donc on peut changer en fait le cours de l'histoire. Et donc sur Ether, il y a un autre mécanisme qui est là du coup à 34%, où ça consiste pareil à prendre en main 34% des Ether qui sont stackés, et c'est pareil. Alors c'est un petit peu moins, mais on va pouvoir avoir un pouvoir d'influence en tout cas qui est suffisamment significatif pour avoir une influence sur le cours de l'histoire. Alors quand on dit qu'aujourd'hui ça devient financièrement inattaquable, c'est au sens où l'équation, elle devient, toutes les attaques globalement, elles sont principalement drivées par une chose, c'est l'incentive économique qu'il y a derrière. Quand il y a une attaque cyber ou informatique ou quoi, quand on va s'attaquer à ce genre de choses, on le fait généralement dans une dimension économique. Et donc là, on arrive dans un stade, un paradigme où l'équation économique, elle est finalement plus du tout équilibrée, puisque le coût pour parvenir à atteindre ces 51 ou ces 34%, il est beaucoup beaucoup trop important pour que finalement ça soit intéressant pour quiconque de le faire. Et même dans des buts politiques,
le coût en énergie par exemple sur le Bitcoin,
le coût financier, donc j'ai plus les chiffres, mais on parle en dizaines de milliards. Donc finalement, même pour rassembler cette somme, c'est colossal, ça prendrait du temps. En plus, on est sur des réseaux transparents, donc potentiellement on pourrait le déceler qu'il se passe quelque chose d'anormal. Donc en fait, on arrive à un moment où on a un stade de développement, et c'est surtout ça en fait qu'il faut sortir de ce rapport qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un niveau de développement, de maturité qui montre que Bitcoin et Ethereum progressent, évoluent, deviennent de plus en plus robustes, et on arrive à ce stade où cette attaque 51, il y a encore 10 ans, c'était quelque chose qui entre guillemets pouvait arriver, en tout cas techniquement c'était pas infaisable. Aujourd'hui on arrive à un point où voilà, si on veut le faire, ça prend beaucoup de temps, et ça devient autant techniquement que financièrement quasiment impossible à réaliser.
Les pros des cryptos, une semaine d'actu crypto en à peine 25 minutes, c'est votre machine à condenser le temps, et elle continue de tourner à plein régime, cette machine. BlackRock, cette semaine, a présenté une nouvelle publicité, une publicité pour son ETF Bitcoin au comptant. Alors le slogan de cette publicité, achetez vos parts dans le progrès. Voilà ce que promet BlackRock. La cible, les boomers bien sûr. Alors justement, on y consacre la question crypto qui claque cette semaine, mesdames, messieurs. Chaque semaine, on pose effectivement une question qui fâche et qui claque. Sur nos réseaux sociaux, notre fil BFM Crypto, notre fil sur le réseau X, notre fil LinkedIn BFM Crypto aussi, vous pouvez vous y abonner. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts ?
Prêts.
On est prêts.
Ils sont prêts. Voici la question qui claque cette semaine. Alors que les ETF Bitcoin se développent et que les ETF Ether vont arriver, pour vous, les boomers, cibles de ces ETF, les boomers dans les cryptos, ce sera le boom des cours à la hausse, le boom B2OM, ou le boom, l'explosion de l'idéal crypto. Telle est la question crypto qui claque. Claire, Thibault, votre réponse. Claire.
Les deux.
Les deux. Boom à la hausse des cours des cryptos pour Claire, mais aussi l'éclatement, le boom BOUM de l'idéal initial. Votre réponse, Thibault ?
Moi, je vais opter pour le boom des cours. J'avais pas compris tout de suite ce que tu voulais dire par le boom de l'idéal, mais je suis pas sûr que ce soit un boom de l'idéal. Moi, je pensais
que l'idéal perdurera quand même.
Je pense que perdurera. L'idéal, en fait, on sait pas réellement c'est quoi. Il y a pas de, enfin, ce qui a été posé au départ. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de Bitcoin. Donc,
les boomers, boom à la hausse ou boom pas explosion l'idéal ? C'est la question crypto qui claque, et vous avez été nombreux à répondre. Vos réponses, on va les découvrir dans un instant. Claire, vous vous êtes pas mouillée là-dessus. Ce sera les deux booms, B2OM et BOUM.
J'ai dit ce que je pensais. Hein. Non, je pense qu'il y aura les deux. Les cours à la hausse, on le voit déjà, puisque le cours du Bitcoin est nettement à la hausse avec les ETF Bitcoin Spot. Le cours de l'Ether, on commence à le voir aussi avec l'anticipation des ETF Ether. Et puis, le boom de l'idéal crypto, évidemment, puisque là, on est sur des entités centralisées qui proposent une exposition au cours des cryptos.
Oui, mais c'est
on
pas,
pas du tout dans pas les
d'accord.
Valeurs.
Et vous critiquez les ETF, mais pas les boomers. C'est pas les boomers qui vont entraîner le problème. C'est pas le boomer le problème. Enfin, franchement, on peut se réjouir que les boomers, les personnes de plus de 65 ans.
Ah, mais ça, on est bien d'accord. Hein.
Les boomers vont faire exploser l'idéal crypto.
On est bien d'accord. Ce sont les moyens d'accès à la crypto. C'est pas évidemment l'âge des personnes en question.
Vous aussi, chez vous, vous avez un avis sur cette question, évidemment, et vous avez voté sur nos réseaux sociaux. Voici vos réponses. Vous êtes une majorité sur les réseaux sociaux, estimés que ce sera d'abord l'arrivée des boomers dans les cryptos grâce aux ETF ou à cause des ETF. C'est selon un boom à la hausse, B2OM, des cours des cryptos à 60%. En revanche, un boom BOUM, une explosion idéale à 40%. Bon, cette question crypto qui claque qu'on vous propose chaque semaine. Les ETF Bitcoin, ils attirent de plus en plus de collectes. Effectivement, un peu plus d'un mois après leur lancement, on est impressionné par le niveau de collecte des ETF Bitcoin, ou plutôt un peu déçu, Claire ?
Non, moi je trouve ça très impressionnant. On a franchi la barre des 50 milliards de dollars aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est un grand succès. Et d'ailleurs, on a certaines interviews de personnalités qui travaillent dans les organisations de ces ETF qui se félicitent des montants qu'ils ont réussi à lever et du marché qu'ils conquièrent. Quand on regarde un peu, c'est évidemment pas homogène. Il y a des ETF qui ont beaucoup plus de succès que d'autres. On voit notamment BlackRock et Grayscale suivis finalement d'assez près par Fidelity qui raflent une très grosse mise puisqu'à eux trois, ils représentent 80% du volume de l'ensemble des ETF. Donc même au sein des ETF, c'est quand même centralisé sur quelques entités particulières.
Il y a un ETF Bitcoin Spot qui a vu ses volumes, pour le coup, exploser. Boum, mais à la hausse là. 4400% de hausse des volumes en une seule journée. C'est l'ETF Bitcoin Spot de VanEck. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est ça, ouais, l'ETF Odell qui a eu... qui a d'ailleurs, ça a surpris pas mal de monde parce que c'était pas spécialement attendu qu'il y ait une hausse aussi importante et c'est pas l'ETF le plus populaire. On l'a vu, c'est pas celui qui est en tête de collecte et pour autant, ils ont fait une journée colossale en termes de volume d'échange. Je crois que c'était mardi. Y a pas beaucoup d'explications, surtout que c'est plein de transactions. C'est pas quelques grosses transactions qui pourraient dire, voilà, c'est des partenariats ou des accords avec d'autres. C'est plein de petites transactions. Et la seule justification qui pourrait amener ça, c'est que ils avaient annoncé une baisse de leurs frais de 0,25 à 0,2. Et ça tombait, en fait, ce jour-là, le moment où c'était actualisé. Mais en tombant à 0,2, finalement, ils sont alignés avec les autres. Donc ça justifie pas une hausse aussi importante. Donc, voilà, bonne surprise pour VanEck. Mais pas d'explication qui justifie autant de volume d'un coup.
Alors, tout n'est pas rose pour autant dans cet écosystème crypto, bien sûr. Et d'ailleurs, un pays d'Amérique centrale a choisi cette semaine de dire non. Non à l'utilisation des crypto-actifs par le secteur bancaire. Ce pays, cette espèce d'anti-Salvador, pas loin du Salvador, c'est le Honduras. Quelle mouche a piqué cette semaine le Honduras, Claire ?
Très bonne question, Guillaume. C'est difficile à dire pour nous qui ne sommes pas spécialistes de la politique du Honduras, mais c'est vrai que c'est une décision qui va à contre-courant de ce qui se passe en Amérique latine et particulièrement au Salvador. C'est d'autant plus étonnant qu'au Honduras, il y a une zone économique spéciale qui s'appelle Prospera, qui est le premier endroit du pays à avoir adopté Bitcoin comme unité de compte légale. Et donc, on se demande ce que la position réglementaire qui vient d'être adoptée au Honduras va avoir comme conséquence sur cette ville, sur cette zone économique spéciale. On se demande aussi quelles vont être les conséquences pour l'industrie crypto sur place, puisqu'évidemment, il y a des entreprises au Honduras. Et on voit bien que le Honduras n'a pas juste pris des mesures anti-industrie crypto, mais il interdit carrément aux banques de proposer des services crypto. Donc c'est vraiment une interdiction générale et assez extrême.
Il est isolé, le Honduras, où on voit de plus en plus de pays effectivement prendre leur distance vis-à-vis des cryptos, parce qu'on parle toujours des développements propres crypto, mais il y a peut-être des réflexes au contraire d'éloignement.
En fait, déjà, on voit pas de pays qui ont fait vraiment le. Il y a beaucoup de pays où il y a des positions en interne qui sont plus ou moins favorables, mais depuis toujours, on a des pays qui ont des politiques qui sont relativement hostiles au sujet. Globalement, tous les pays qui ont une volonté d'avoir un contrôle fort sur le territoire ou sur leur population est plutôt détaché ou plutôt défavorable à Bitcoin. Il y en a où c'est de notoriété publique. On le sait pour le Maroc, par exemple, pour l'Algérie, où là, il y a de notoriété publique, c'est affiché qu'ils sont plutôt contre ces choses-là. C'est pas pour autant que la population s'en détache, parce qu'on voit quand même de l'adoption dans ces zones géographiques. Et après, en fonction des zones, on va avoir des positions qui sont plus ou moins fermes sur des sujets plus ou moins précis. Par exemple, la Chine s'est régulièrement positionnée contre certains pans du secteur. On a d'autres pays qui font aussi ce choix-là, mais des réticences complètes, c'est plutôt rare.
Le blanchiment d'argent en crypto, c'est un reproche qui est régulièrement fait aux cryptos, mais bon, on pourrait reprocher aux billets de dollars aussi de servir à blanchir l'argent. Bref, le blanchiment d'argent en crypto, il est en train de reculer. C'est Chainalysis qui nous l'a dit.
Ouais, il recule moins 30% par rapport à l'année dernière. Ce qui est au-delà du moins de 30%, ce qui est intéressant, c'est le pourcentage par rapport au volume d'échange global. Je crois qu'on est à moins de 0,003%, quelque chose comme ça, du volume global. Donc c'est un poncif qui persiste, et pour autant on a de plus en plus d'études qui montrent le contraire. Et à titre de comparaison, je crois que j'avais vu juste un chiffre pour terminer, un chiffre qui a été sorti par Complete Vantage sur 2022, où juste les amendes dans le secteur bancaire sur les sujets de blanchiment d'argent, on est je crois à plusieurs milliards sur le secteur bancaire, alors qu'on est à peine quelques dizaines de millions pour le secteur crypto.
Claire, moins d'une minute, on parle soit de l'euro numérique, soit de Circle, l'USDC. L'euro numérique ou l'USDC ?
Ah, l'USDC.
L'USDC ?
C'est plus intéressant que l'euro numérique.
Allons-y. Puisque l'USDC est retiré de la blockchain Tron, c'est l'une des annonces de cette semaine. L'USDC sort de Tron, comment est-ce qu'on doit l'interpréter ?
Pour moi, c'est vraiment un signal que Circle se positionne plutôt pro-régulation et essaye de montrer patte blanche auprès du régulateur, notamment du régulateur américain, en vue, par exemple, d'une entrée en bourse. Pourquoi ? Parce que un certain nombre d'entreprises liées à la blockchain Tron, et notamment la fondation liée à la blockchain Tron, sont dans le viseur de la SEC, qui les accuse de pratiques publicitaires et marketing trompeuses, notamment d'avoir eu recours à des influenceurs qui n'ont pas divulgué les montants qu'ils avaient reçus de la part de la fondation Tron. Voilà. En gros, il les accuse d'avoir fait une émission de titres financiers déguisés, non régulés. Donc, Circle se détache de cette blockchain et n'émet plus d'USDC sur cette blockchain. Maintenant, la question qui subsiste, c'est est-ce que l'autre stablecoin dominant du marché, l'USDT, et donc l'entreprise Tether, va retirer l'USDT de la blockchain Tron ? Ce serait très improbable et surtout lourd de conséquences pour l'USDT parce que un peu plus de la moitié du stock d'USDT circule sur la blockchain Tron.
Oui, donc Tron n'est pas mort, loin de là.
Pour l'instant, non.
Ouais.
C'est un mauvais signal.
C'est un mauvais signal. Il y a des défauts peut-être sur cette blockchain. Bon, c'est un peu tu me tiens par la barbichette là entre l'USDT et
Tron. Surtout, il y a des problèmes avec le régulateur qu'il va falloir régler.
Ouais, effectivement. Les pros des cryptos, alors c'est chaque vendredi bien sûr, mais le club BFM Crypto, lui, c'est du lundi au jeudi, 15h chaque après-midi avec Amaury Tonquédec et ses experts à retrouver aussi sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Claire Balva, elle est en forme. Claire est remontée contre la tribune des deux membres de la BCE. Mais vous êtes quand même en forme avec le sourire. Merci beaucoup, Claire.
Merci, Guillaume.
Présenté des blocs sur ce plateau. Lui représente Meria, Thibaut Boutrou. Merci, Thibaut. D'être passé nous voir, directeur des opérations de Meria, les pros des cryptos à retrouver, bien sûr, aussi sur nos réseaux sociaux. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.